accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Bilan de mi-parcours pour les négociations sur le Brexit. Il y a un an, la première ministre Theresa May déclenchait l'article 50 sur la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, qui prendra effet dans un an, le 29 mars 2019. Dans ce contexte, tous les secteurs de l'économie et de la société s'adaptent et s'interrogent. C'est le cas de la communauté scientifique. Entre 2007 et 2013, le pays a reçu 8,8 milliards d'euros de l'UE, le quatrième plus grand bénéficiaire de fonds européens. Qu'est-ce qui va changer pour les chercheurs? C'est le reportage à Londres de Marie Billon.
Tout près de Saint-Pancras, la gare des Eurostars, au nord de Londres, se dresse le flambant neuf Francis Crick Institute. Ici, 1250 scientifiques de 70 différentes nationalités travaillent à l'avancement de la recherche médicale, dont 44% d'Européens.
Good morning, François.
Hello.
C'est ici que le Français François Guillemot travaille depuis 16 ans. Il gère une équipe de 14 personnes.
Mon équipe travaille sur le développement du cerveau. Nous intéressons aux cellules souches dans le cerveau de l'embryon, mais aussi le cerveau adulte, et quelle est leur fonction, comment leur activité est régulée au cours du développement normal, mais aussi dans certains types de pathologies. Actuellement, nous sommes 14 en tout. J'ai fait le compte hier, il y a 3 Britanniques, 4 personnes venant d'ailleurs dans le monde, américains, australiens, singapouriens et mexicains. Et 6 Européens non britanniques, 2 Espagnols, une Italienne, un Allemand, une Portugaise et j'oublie quelqu'un, je crois. Et je suis le seul Français.
Une équipe très diverse donc, mais ce n'est pas surprenant à l'Institut, ni même dans le monde de la recherche britannique et européen. Et pour l'instant, François ne pense pas que le Brexit changera quoi que ce soit à ce mode de fonctionnement.
Personne ne pense partir. Je viens de recruter une Espagnole pour un stage postdoctoral il y a 2 semaines, donc continue d'avoir des Européens qui viennent à Londres. Ah, mais il y aura un changement de statut, bien sûr, mais en termes de facilité de recrutement, je pense qu'il n'y aura pas de différence considérable. Si l'arrivée d'Européens est quelque chose qui est un peu plus compliqué sur le plan administratif, avec des visas et des choses comme ça, à ce moment-là, effectivement, des passe-droits, des systèmes pour que l'arrivée de chercheurs européens se fasse de façon facilitée, rapide et simple, et sans trac administratif, c'est certainement quelque chose de très souhaitable.
Mais après tout, l'Institut emploie bien des centaines de non-européens. Crick a les moyens de gérer la paperasse en plus. François n'est pas beaucoup plus inquiet pour le financement de ses recherches.
Actuellement, mon financement est à peu près exclusivement britannique. J'envisage de refaire des demandes de financement européen l'année prochaine. C'est une source parmi d'autres, mais c'est une source assez généreuse, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Une chose peut-être à préciser, c'est que les chercheurs britanniques dépendent moins de financement européen que dans beaucoup d'autres pays de l'Europe parce que les sources de financement britanniques sont excellentes. Donc on dépend moins d'apports extérieurs.
L'Institut Crick travaille régulièrement avec la Wellcome Trust, une ONG qui finance la recherche médicale et pharmaceutique. En février, elle a publié un rapport sur l'impact du Brexit sur la science.
We strongly believe that for our charity to function.
C'est dans les locaux de la Wellcome Trust, tout aussi chic et moderne que ceux du Crick, et à moins d'un kilomètre de là, que la baronne Elisa Manningham-Buller et Ed Whiting, respectivement présidente et directeur des programmes, dévoilent ce document. Il a été compilé grâce à l'aide et aux observations de près de 200 scientifiques européens.
En 1981, seuls 5% des publications scientifiques émanaient d'auteurs de différentes nationalités. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié. Et nous voyons le Brexit comme une menace sur cet état de fait. Ces 10 dernières années, le Conseil européen de la recherche est devenu l'un des plus grands financeurs de la science internationale. C'est difficile de créer des mécanismes de financement impliquant plusieurs pays, mais le Conseil a réussi, et avec succès en plus. L'Europe fournit environ un tiers des publications scientifiques, alors qu'elle compte seulement 7% de la population mondiale.
Le Royaume-Uni est pour l'instant assuré de rester dans les mécanismes de financement et de coopération européens pendant encore 2 ans dans le cadre du programme Horizon 2020.
Le Royaume-Uni devrait demander à être encore associé au programme scientifique de l'Europe. Le prochain, FP9, est en train d'être élaboré à Bruxelles. Londres fait partie de ces négociations et après le Brexit, elle devrait demander à devenir membre associé. Si nous y parvenons, le Royaume-Uni ne recevra plus autant de financement, certes, mais nous pourrions peut-être rester bénéficiaires si nous gardons la qualité de travail que nous avons actuellement, bien sûr.
Ed assure que le Brexit a déjà été un coup dur pour la science au Royaume-Uni. Les scientifiques sont déjà moins nombreux à vouloir travailler dans les instituts et universités du pays. Et les Britanniques ne sont plus aussi souvent sollicités pour diriger des recherches internationales. Malgré tout, Eliza Manningham-Buller veut rester optimiste.
Not always.
C'est plus facile d'être positif sur l'avenir de la science comparé à d'autres secteurs. Des deux côtés de la Manche, les scientifiques accordent de l'importance à la solidité de notre coopération. Par exemple, en ce moment, il y a un programme de recherche sur un type rare de tumeur cancéreuse chez l'enfant. Dans ce pays, nous avons une centaine de cas. On ne peut pas faire des recherches efficaces avec un nombre si petit. Il est donc effectué à l'échelle européenne. Si on n'arrive pas à s'entendre avec l'Union européenne, non seulement le Royaume-Uni ne pourra plus prendre part à ce genre de recherche, mais nous ne pourrons pas non plus étudier cette maladie car nous n'aurons pas assez de patients.
Eliza Manningham-Buller souhaite donc aussi qu'après le Brexit, Londres décide de continuer à suivre les régulations européennes en termes de standards d'hygiène ou bien d'expérimentation sur les animaux.
My name is Dr. Mike Goldsworthy, co-founder of Scientists for EU.
Un groupe de pression fait campagne en ce sens, Scientists for EU, les scientifiques pour l'Union européenne. Mike Glasworthy, spécialiste des politiques de la santé, a créé ce groupe juste après le Brexit. Nous le rencontrons tout près de l'Institut Crick.
Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer parce que la position du gouvernement n'est pas claire. Il veut conserver les mêmes relations qu'actuellement, mais pour cela, il faut accepter les mêmes régulations, mais aussi trouver un accord sur la liberté de mouvement. Or, c'est la ligne rouge pour l'instant. On aura certainement un rôle dans le programme FP9, mais le Parlement européen vient de dire qu'on pourrait être traité comme un pays tiers, sans les avantages donc de la Norvège ou de la Suisse, et ne pas être capable de diriger certains projets internationaux ou d'attirer des spécialistes avec des bourses du Conseil européen de la recherche serait un désastre pour la science britannique.
Le problème n'est pas tant l'argent, dit Mike, c'est le prestige. Si le Royaume-Uni n'est plus un meneur, il n'attirera plus les cerveaux les plus brillants et la qualité de ses travaux en sera d'autant diminuée.
Les électeurs hongrois devront bientôt dire s'ils choisissent d'accorder un nouveau mandat à Viktor Orban, un président qui ne ménage guère l'Europe, accusé de tous les maux. C'est pourtant grâce aux fonds européens que l'économie de son pays est aussi dynamique. Dans le secteur de la santé, le bilan est très mitigé si des hôpitaux de province ont été partiellement rénovés grâce à l'argent de l'UE. En revanche, à Budapest, les hôpitaux publics sont à la dérive et aucune réforme de la santé n'a été menée à bien. La situation est donc loin d'être positif, comme nous l'explique sur place Florence Labruyère.
7 heures d'attente aux urgences sans voir un seul médecin. C'est ce qui est arrivé à l'écrivain Joja Vati. Après avoir été vaccinée contre la grippe, elle a fait une allergie au vaccin. Elle a été transportée aux urgences d'un hôpital de Budapest, mais personne ne s'est occupé d'elle. Son état empirant, sa famille l'a faite transférer dans un autre hôpital. Trop tard, l'écrivain est décédé alors qu'une piqûre aurait pu la sauver. Toutes les semaines, on entend parler d'un cas similaire. Aujourd'hui, en Hongrie, on meurt à l'hôpital faute de soins. Certes, il existe des cliniques privées, mais elles ne sont pas conventionnées et le malade doit tout payer de sa poche. Et ces cliniques n'ont pas de service d'urgence. Si la situation est si calamiteuse, c'est d'abord parce que les hôpitaux manquent de médecins et d'infirmières. En Hongrie, une infirmière gagne 400 euros net par mois. 4 fois moins qu'en Autriche. Aujourd'hui, des équipes entières partent ensemble travailler à l'étranger. Résultat, dans certains services, il n'y a plus qu'une infirmière pour 60 malades. S'ajoute à cela le manque de scanners, d'imagerie médicale et de simples fournitures. Quand un patient est hospitalisé, il doit tout apporter à l'hôpital. La nourriture, les pansements, le coton et les seringues. Les problèmes s'accumulent depuis des années, mais aucune réforme du système n'est à l'ordre du jour. Résultat, l'état sanitaire de la population ne s'améliore pas. Les pratiques de prévention sont peu développées et les Hongrois sont plus sujets aux maladies cardiovasculaires et pulmonaires que d'autres Européens.
Mayotte, Saint-Martin, la Guadeloupe, les départements français d'outre-mer sont souvent prompts à dénoncer les sous-investissements, les sous-équipements et donc la sous-considération que leur impose la métropole. Le grand incendie qui a ravagé le centre hospitalo-universitaire de Guadeloupe fait partie de ces événements qui ravivent la colère. Depuis novembre, les médecins réclament davantage qu'une simple relocalisation partielle. C'est le reportage de Christine Zibert.
Nous sommes en seule famille. Famille Guadeloupe, donc rapprochez-vous autres pour nous faire savoir quand t'es échangé ensemble.
Infirmière en blouse blanche, syndicaliste en t-shirt coloré, ils sont plus d'une centaine à protester devant les tours de l'hôpital.
Ce bâtiment n'était pas apte à recevoir du public.
Mona Edreville, cardiologue au CHU, est l'une des porte-paroles du collectif.
Les gens ont commencé à se plaindre de différents maux, déjà d'odeur et de fatigue. Et c'est le cas de beaucoup de personnels qui ont des céphalées, qui font de l'asthme maintenant. Des gens qui n'étaient pas asthmatiques, qui deviennent asthmatiques. Des gens qui ont des rhinites, qui ont des vertiges. Donc c'est ça la réalité. Et on refuse d'entendre cela en disant que c'est probablement psychologique, voire hystérique. Donc là, il y en a assez.
Une manifestation sur fond de protestation contre l'inégalité entre Guadeloupéens et Français de métropole devant la santé. La Cour des comptes avait tiré la sonnette d'alarme en 2014, dénonçant des difficultés sanitaires persistantes et des systèmes de santé à la peine dans les dom-toms. Au CHU, on dénonce pêle-mêle une pénurie de médicaments et de matériel médical, des services saturés et suite à l'incendie, une dégradation supplémentaire des conditions de travail.
Vous ressentez l'odeur ?
Ouais.
Et on est au 8e étage.
Visite de l'hôpital avec Claudine Marathon, infirmière et secrétaire générale du syndicat Union des travailleurs UTS-UGTG. Une partie des employés est actuellement en arrêt maladie suite à des malaises dus à un air irrespirable, souligne-t-elle.
Il faut savoir que nous avons 380 agents en arrêt maladie parce qu'il y a certains où ce sont des malaises où, qu'ils ont eu au sein de leur travail et on ne leur a pas reconnu en tant qu'accident de travail. Il faut compter 10% en arrêt, donc c'est un chiffre énorme et tout le monde est en danger, quoi.
Une affiche est collée sur une vitre. Que respirons-nous est écrit en grandes lettres noires. Une question que tous se posent, notamment la cardiologue Mona Edreville. Selon elle, les analyses de l'air ont été effectuées en nombre insuffisant, sans transparence et de façon chaotique.
La solution, c'est continuer les expertises d'analyse de l'air. Le CO ne se sent pas. Il y a encore des rémanences dans l'air. Ça veut dire que nous n'avons pas fini l'analyse de l'air. Et jusqu'à présent, la direction, les tutelles ne nous donnent pas la liste de ce qui a brûlé. Tout n'a pas été cherché, parce que quand on ne veut pas voir, on ne cherche pas.
On cherchera en toute transparence, affirme la toute nouvelle directrice de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe, Valérie Denux, qui promet un plan d'action pour décontaminer le CHU. Mais parmi les équipes médicales, on craint que ce soit plutôt des questions financières qui guident les choix de l'administration.
Soyons sérieux. Projetons-nous dans l'avenir. Or là, ce n'est pas ce qui se passe. C'est au jour le jour des décisions, des contre-décisions, le refus d'écouter le personnel qui est sur le terrain, le refus de donner les moyens adéquats. Et on dit stop, ça suffit, il faut que les Guadeloupéens se fassent respecter.
C'était un pédiatre. Et pour les gens qui connaissent lui, et pour ceux qui ne connaissent pas lui.
Le respect, c'est une revendication qui est sur toutes les lèvres. Un hôpital dans un tel état soulèverait l'indignation générale s'il se trouvait en métropole, disent-ils. La Cour des comptes épingle certes le mauvais état des hôpitaux d'outre-mer, mais affirme qu'il n'est pas dû à un sous-financement. D'ailleurs, les dépenses de santé par habitant varient peu entre les Guadeloupéens et les Français en général, environ 3 000 euros par an, mais à une mauvaise gestion des hôpitaux dans les dom-tom. N'empêche, les Guadeloupéens ont le sentiment d'être des Français de seconde zone. Ginette Lerus est secrétaire du comité d'hygiène de l'hôpital.
Mais attendez, on est quand même en France ici. En créole, on dit nous c'est monde contre tout monde, c'est-à-dire on est un peuple comme tout peuple. Et on a le droit à la même santé, aux mêmes précautions. Et le CHU, c'est le centre de la santé en Guadeloupe. Quand il faut voter, on est français. Mais le restant, on ne sait pas.
Quels que soient les moyens mis sur la table et quelle que soit la méthode adoptée, délocalisation totale des services ou opération avec évacuation partielle, la réhabilitation de l'hôpital va prendre du temps, plusieurs mois, voire une année entière.
Come cycling, just try it and you'll see. Come cycling, you'll love it just like me. I love to go with cycling, it's just the best thing out. It's the best way to keep fit, the best to get about.
Et à l'heure où le printemps pointe très timidement en Europe occidentale, on vous fait découvrir un sport en mi-saison, le VTT sur neige, une activité qui a débuté il y a 10 ans au Canada et que les stations de ski françaises commencent à découvrir, tout comme Laurent Berthaud.
Ce matin-là, au pied du télésiège de Puy-Saint-Vincent, dans les Hautes-Alpes, un petit groupe de cyclistes attend son tour, attirant les regards curieux des skieurs. Les vélos sont accrochés sur un dispositif spécial, fixé à l'arrière du télésiège, et à 1600 mètres d'altitude, c'est parti pour une balade sur les pistes damées de ski nordique et de raquettes. Grâce aux larges pneus sous-gonflés du VTT, l'accroche sur la neige est incroyable et passé le premier moment de prudence, on se laisse glisser à près de 50 km/h.
Faut avoir confiance quand même.
Faut avoir confiance.
Faut pas freiner quoi.
Là ça va mieux.
En fait c'est ça, c'est vraiment si on vient bloquer la roue, bah, effectivement, surtout là quand même la neige est quand même bien dure, donc on peut arriver à quelques endroits. Là ils ont pas rodamé hier.
C'est Maurice Schwickerat, moniteur de vélo, pisteur secouriste avec qualification neige, qui emmène le groupe de 5 personnes sur ces machines, d'autant plus confortables qu'elles sont électriques, Véronique est conquise.
C'est très agréable parce que ça adhère vraiment bien. On dérape juste ce qu'il faut et on a une sensation de glisse aussi qui est pas mal.
Faut savoir bien maîtriser un VTT ou...
Non, il faut juste comprendre comment fonctionnent les vitesses et l'assistance en même temps parce qu'au début, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc je me suis retrouvée bloquée, mais après non, hein. On peut même monter des raidillons facilement, très facilement.
Ça donne envie de recommencer ?
Oui, parce que maintenant je maîtrise mieux la bête. Je pense que ça sera mieux la deuxième fois.
Et quand les jours rallongent, le VTT des neiges offre de petits plaisirs rares en fin de journée. Maurice Schwickerat.
On arrive au-dessus du col de la Pousterle et puis on observe une première fois le coucher du soleil. Et comme on est en vélo électrique, qu'on monte rapidement, on arrive à remonter du coup sur la montagne qu'on appelle les Têtes et on rattrape le soleil pour pouvoir faire un deuxième, voire un troisième coucher de soleil.
Et c'est déjà le moment de regagner la station. On croise des skieurs de fond et des marcheurs en raquettes qui jettent un regard amusé, mais pas toujours, car l'arrivée du VTT sur les pistes crée aussi des conflits d'usage.
Effectivement, il peut y en avoir. C'est pour la raison pour laquelle on a décidé à Puy-Saint-Vincent de proposer cette activité seulement de manière encadrée. Donc les gens ne peuvent pas le faire de manière autonome, ce qui nous permet justement de gérer les différents accès aux pistes où on est autorisé à faire du VTT, de pas retrouver des VTT par exemple au niveau des pistes d'alpin, et puis de gérer la vitesse à laquelle on va descendre, de gérer les différents conflits qu'on peut éventuellement rencontrer avec les personnes qui sont surpris de voir du VTT pour l'instant.
Le VTT des neiges répond en tout cas à une demande de plus en plus forte d'activités différentes. Grégoire est comblé.
Par rapport au ski, c'est différent. Je pense que c'est une bonne alternative. Et tu vas accéder à des domaines que tu ne peux pas accéder en ski alpin. Donc ça ouvre des perspectives. Vraiment super. Pas se concentrer sur que des pistes.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Groslo. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission et Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. À demain.